Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Presque un an depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre est loin d'être finie. Mais déjà la question se pose, comment juger les atrocités commises pendant ce conflit et surtout comment traduire leurs auteurs devant la justice? Les enquêtes se multiplient partout en Europe et même au-delà, avec en ligne de mire l'ouverture de procès pour les criminels de guerre en Ukraine ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle et c'est le combat que mène l'ONG Trial International installée à Genève. Les explications de Jérémy Lanche.
La compétence universelle naît sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale et l'adoption dans la foulée des conventions de Genève. L'idée est simple, un État ne peut normalement juger des crimes que s'ils ont été commis sur son sol ou contre ses ressortissants, mais on considère désormais que certaines violations sont si graves que les juridictions nationales peuvent poursuivre leurs auteurs.
Chaque pays a une manière différente d'appliquer la compétence universelle.
Elsa Taquet est juriste pour l'ONG Trial International.
Certains pays ont ce qu'on appelle la compétence universelle absolue, comme l'Allemagne par exemple. Mais pour l'ouverture d'enquête, il n'y a pas de conditions spécifiques. Ensuite, il y a d'autres pays comme par exemple la France ou la Suisse, où là, la présence du suspect est l'une des conditions d'application de la compétence universelle. Et donc ça, évidemment, ça limite beaucoup le champ d'application de cette compétence.
La guerre en Ukraine intéresse beaucoup les juridictions européennes, bien plus que d'autres conflits. Une quinzaine de pays ont entamé des démarches, des États baltes, en passant par la Pologne voisine, l'Allemagne, la France, les États-Unis et jusqu'au Canada. Mais ça ne veut pas dire qu'on verra des procès dans tous ces pays.
Il y a aussi cette volonté qu'on peut percevoir de la plupart des pays de dire on a des victimes sur notre territoire, on souhaite faire notre part et donc documenter un maximum ce que ces personnes ont vécu pour ensuite soit ouvrir des enquêtes, soit partager ce type de preuves qu'on a pu récolter pour les renvoyer aux autorités ukrainiennes qui pour le moment sont les principales autorités qui sont en charge de poursuivre les crimes de guerre commis sur leur territoire.
Mais qui juger ? Est-ce qu'on verra un jour Vladimir Poutine et ses ministres sur le banc des accusés pour le massacre, par exemple, de Boutcha, qui a fait plusieurs centaines de morts dans la région de Kiev ? Peu probable, admet Elsa Taquet, même si d'autres hauts responsables pourraient bien devoir rendre des comptes.
Il y a beaucoup de personnes très haut niveau, donc placées dans la hiérarchie militaire, qui, eux, ne sont pas sous couvert de l'immunité, qui est quand même assez restreinte, et qui, eux, ont une responsabilité plus directe dans les crimes qui ont été commis en Ukraine et qui pourraient potentiellement faire l'objet de poursuites. C'est plus à ce niveau-là qu'on focus nos efforts d'enquête.
Touché sur son sol et dans sa chair, l'Europe ne peut de toute manière pas faire l'économie d'un procès pour les crimes commis en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide par exemple pour la création d'un tribunal spécial soutenu par les Nations Unies, à la manière de ce qui s'est fait pour l'ex-Yougoslavie. Quant à la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête, elle pourrait sur le papier juger des éventuels crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ukraine. Une réunion internationale pour évoquer tous ces sujets doit avoir lieu en mars à Londres autour du ministre de la Justice britannique.
Miał w sobie takie siły.
Direction Cracovie, en Pologne, la ville veut réduire le nombre de voitures pour améliorer la qualité de l'air. C'est la première métropole de Pologne à prendre ce genre de mesures, notamment parce qu'elle compte parmi les villes les plus polluées en Europe. Martin Chabal.
Cracovie a de sérieux problèmes avec la pollution, que ce soit à cause des voitures ou des usines à charbon qui l'entourent. En moyenne, les habitants de Cracovie perdent 3 ans et demi d'espérance de vie à cause de la mauvaise qualité de l'air. Bartosz Piwat est l'un des responsables d'une association qui contrôle la qualité de l'air en Pologne. Selon lui, la situation commence à s'améliorer.
Il y a 10 ans, on pouvait comparer la concentration de particules fines dans l'air à Cracovie avec celle de New Delhi. Aujourd'hui, ça arrive encore. Mais ce n'est pas 100 jours dans l'année comme avant. C'est plus 5 ou 12 jours par an.
12, 5 days.
parce que la ville de Cracovie tente de faire des efforts depuis quelques années. Depuis 2019, par exemple, il est totalement interdit d'utiliser du charbon pour chauffer sa maison. Bartosz Piwat explique que la ville est avant-gardiste en Pologne.
Cracovie a commencé à limiter le nombre de voitures dans la ville en 1978. C'était la première ville en Pologne et peut-être en Europe à interdire les voitures de certaines rues. En 1988, Cracovie a aussi été la première à mettre en place des zones de stationnement payant en Pologne. Donc les gens de cette ville ont l'habitude de ces mesures qui régulent l'utilisation de la voiture. La zone de transport propre était inédite, mais ce n'était pas une surprise. C'est aussi pour ça que c'est plus facile de prendre ce genre de mesures à Cracovie.
Les habitants sont habitués à réguler l'utilisation de la voiture pour limiter la pollution de l'air dans la ville. Alors Cracovie va progressivement réduire le nombre de véhicules autorisés dans ses rues. Une fois totalement appliqué en 2026, seules les voitures essence construites après 2000 et les diesels construits après 2010 pourront rouler. Yulia sort de sa voiture, elle ne l'utilise que de temps en temps, mais est consciente que cette mesure améliorera sa qualité de vie.
Je pense que c'est une bonne chose, notamment pour le trafic et la pollution. Normalement, je me déplace presque tous les jours en transport en commun.
Wojtek, lui, est livreur de repas à domicile. Moins de voitures, c'est aussi plus de sécurité.
C'est bien mieux, oui. Moi, j'ai un vélo électrique. C'est un bon moyen pour se déplacer en ville.
Cette zone de transport propre est populaire. Les sondages montrent que 75% des habitants de Cracovie sont favorables à cette nouvelle mesure. La contestation est surtout présente en périphérie de la ville. Beaucoup ont peur de ne plus pouvoir aller au travail ou à l'hôpital, par exemple, à cause de cette large zone de restriction. Bartek représente une association citoyenne de la banlieue de Cracovie qui s'oppose à cette nouvelle mesure. Pour lui, la mairie ne peut pas prendre exemple sur les villes d'Europe de l'Ouest.
La société polonaise n'est pas aussi riche que celle de l'Europe de l'Ouest et ces gens n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture.
Parce que selon les estimations, ce sont 20% des voitures qui circulent dans la ville qui devront être remplacées. Bartek ne s'oppose pas pour autant à la mise en place de cette zone qu'il juge trop restrictive et trop large géographiquement.
On veut que la zone soit modifiée, qu'elle soit plus respectueuse de la population et qu'elle soit efficace. Sur le plan de l'écologie, bien sûr, mais pas pour rendre la vie des habitants plus difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont pauvres ici.
Lui aussi est conscient des enjeux de la qualité de l'air à Cracovie, mais il n'est pas le seul à s'opposer à cette mesure. D'autres associations plus importantes sur la scène nationale, conservatrices et catholiques, s'opposent à cette zone de transport propre par principe. Au nom de la liberté individuelle, chacun devrait être libre de rouler avec sa voiture, quelle qu'elle soit, mais aussi car cette zone est impulsée par l'Union européenne, ennemie des ultranationalistes conservateurs en Pologne. Ces associations ne veulent pas que l'Union européenne impose son environnementalisme et son néo-marxisme à la Pologne. Elles tentent alors de faire annuler cette nouvelle mesure par la voie de la justice. Malgré tout, d'autres grandes villes polonaises envisagent aussi de mettre en place une zone de transport propre. Varsovie, la capitale, devrait d'ailleurs annoncer cette nouvelle mesure dans les mois à venir.
L'industrie du jeu vidéo en Europe, c'est plus de 23 milliards d'euros pour 2021. Une industrie qui emploie près de 100 000 personnes. Et la croissance est toujours au rendez-vous. En s'appuyant sur ce dynamisme, la Commission européenne réfléchit à une stratégie à long terme, avec pour objectif la création d'encore plus d'emplois et pour accentuer son soft power, son influence grâce à ce secteur. En Suède, par exemple, l'industrie du jeu vidéo a quadruplé ses revenus en à peine 5 ans. C'est un gros employeur. Le secteur est aussi le théâtre de stratégies d'acquisition, dont l'un des principaux acteurs est Embracer, une multinationale suédoise devenue le plus gros groupe de jeux vidéo en Europe. Si le nom d'Embracer ne vous dit rien, il possède dans son escarcelle des centaines de studios, ceux qui ont créé par exemple Tomb Raider, ou tous les jeux liés à Bob l'Éponge ou au Seigneur des Anneaux. Et aujourd'hui, son fondateur, le milliardaire Lars Wingefors, s'est mis en tête de collectionner tous les jeux vidéo du monde pour, dit-il, ouvrir un grand musée à Karlstad, à l'ouest de Stockholm. Son portrait avec Carlotta Morteo.
Son premier business, il l'a lancé à 13 ans. Nous sommes en 1989. Le très jeune Lars Wingefors crée LW Comics, une société de bande dessinée d'occasion vendue par correspondance. Son entreprise va si bien tourner qu'à 16 ans, il arrête l'école pour en fonder une deuxième, Nordic Games, et faire la même chose, mais avec des jeux vidéo d'occasion. C'est un carton. 500 000 euros de chiffre d'affaires en un an, puis une croissance exponentielle pendant la décennie 90, jusqu'à ce que la bulle Internet vienne tout faire capoter. Mais l'entrepreneur ne lâche pas l'affaire. Avec le capital de la vente de Nordic Games, il rachète des stocks invendus de grands jeux vidéo, les reconditionne sur des palettes depuis sa petite ville de Karlstad pour les vendre sur le marché international à des magasins de détail. C'est là qu'il va ouvrir un studio pour produire des jeux sur Nintendo à partir d'idées de jeux existant uniquement sur PlayStation. Voilà qui va faire de lui un millionnaire. Finalement, depuis le début, sa spécialité, c'est la réutilisation des jeux, le recyclage, en somme, des produits, puis des idées. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'observateurs soupçonnent que derrière sa dernière idée, celle de collectionner tous les jeux vidéo du monde pour en faire un musée, il en est aujourd'hui à 60 000, Lars Wingefors soit en train de mettre la main sur les droits d'exploitation de jeux oubliés pour un jour, au moment opportun, les remettre au goût du jour et les relancer. De quoi garantir à la multinationale Embracer un inépuisable vivier de jeux dans lequel puiser pendant les décennies à venir.
Felejthetetlen élményekkel vár Európa kulturális fővárosa Veszprém és a Bakony-Balaton régió. Ünnepeljünk együtt a nyitó eseményen január 21-én Veszprémben.
Rendez-vous à Veszprém, ville hongroise élue capitale culturelle de l'Europe cette année. La ville partage ce label avec Timișoara en Roumanie et Eleusis en Grèce. À 10 km du lac Balaton, Veszprém se refait une beauté et espère ainsi sortir du marasme post-Covid et de la crise économique. Reportage de Florence Labruyère.
C'est parti pour un an. À 1h30 de route de Budapest, la ville de Veszprém est capitale européenne de la culture. Cette localité de 60 000 habitants, entourée de remparts médiévaux, avait déjà un faible pour la musique. Elle organise un festival de jazz tous les étés. C'est donc tout naturellement en musique que se sont ouvertes les festivités, avec des concerts sur les places publiques et dans les cafés du centre-ville. Un quartier où plusieurs boutiques avaient fermé à cause de la pandémie et qui fait peau neuve aujourd'hui. Tomasz Jolnay vient d'y ouvrir un bar qui s'appelle Vin et Vinyle.
Avant, j'étais DJ dans un groupe qui s'appelait Vin et Vinyle. Ça a toujours été mon rêve. Je voulais qu'on ait un lieu à nous où on organiserait des concerts, des dégustations de vin, des expos.
Si Tomasz a pu réaliser son rêve, c'est parce que sa ville a été couronnée capitale culturelle de l'Europe. Le gouvernement hongrois et la municipalité ont financé la réhabilitation du centre-ville. Et Tomasz a reçu une aide de 50 000 euros pour rénover une vieille boutique.
Avant, c'était un magasin de jouets qui a fermé et c'est resté vide pendant longtemps. Avec le financement que j'ai reçu, j'ai fait installer des toilettes, un comptoir, des machines et j'ai refait toute la déco. Là, c'est à moi de rentabiliser l'affaire. C'est comme si on m'avait aidé à construire un bateau et maintenant je suis seul à la barre.
Seule condition imposée par la ville, organiser des événements culturels dans le café. En ce moment, le bar expose les clichés d'un photographe autrichien. Tomasz a également programmé des soirées littéraires suivies de dégustations de vin.
C'est une opportunité fantastique, pas seulement pour nous, mais aussi pour les entreprises, pour la ville et toute notre région. Car le lac Balaton et les collines du Bacogne qui nous entourent sont associées à ce projet. On va pouvoir faire connaître la culture, la gastronomie et les festivals de notre région à toute l'Europe.
Veszprém se refait une beauté, et pas seulement pour les touristes. La ville veut que les changements profitent aux habitants. Fermé depuis 20 ans, l'hôpital pour enfants a été complètement réhabilité. Peter Lamos, architecte en chef du projet, montre des photos du lieu avant sa rénovation. On y voit des murs délabrés, un toit effondré et des salles envahies par la végétation. C'était en très mauvais état, c'était vraiment une ruine, plaisante l'architecte. La réhabilitation est spectaculaire, la façade 18e a été repeinte couleur crème et les tuiles vernissées du toit brillent sous le soleil hivernal. L'édifice, qui est presque terminé, hébergera bientôt une école de ballet, un club de yoga et un atelier de musique pour les habitants du quartier, explique Sabi Zugschwartz, coordinateur du projet.
Ces lieux culturels pour le ballet, le yoga, il y aura aussi un nouveau musée numérique et un cinéma d'art et d'essai, sont là pour durer. Ce statut de capitale culturelle va avoir un impact sur notre vie pendant 30 ou 50 ans.
Pour préparer son projet, la ville de Veszprém s'est inspirée de l'exemple de Marseille, qui a été capitale culturelle de l'Europe il y a quelques années.
On est allé dans les villes qui étaient capitales culturelles avant nous. On est allé à Marseille. On a trouvé très intéressant que la ville soit capitale européenne de la culture avec toutes les régions de Provence. Les villages autour de Marseille qui souhaitaient participer au projet ont dû payer 1 euro par habitant. Eh bien nous, on a fait la même chose dans notre région.
L'idée a séduit plus d'une centaine de villages autour de Veszprém et du lac Balaton. Les habitants ont chacun versé 1 euro. La population espère que le statut de capitale culturelle relancera l'économie de la région.
Sécurité, investissement, migration entre l'Europe et l'Afrique, les sujets ne manquent pas. Mais la relation est difficile malgré les déclarations d'intention. Si ces derniers mois la guerre en Ukraine a relégué le continent africain très loin dans la liste des priorités à Bruxelles, la relation s'était lentement dégradée ces dernières années. Les Européens ont visiblement du mal à changer de logiciel pour pouvoir y remédier. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Il y a un an, juste avant le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, ça n'allait déjà pas très bien. Parmi toutes les raisons des tensions, il y avait l'accès aux brevets de vaccins contre le Covid ou encore les promesses non tenues d'investissements pour aider les pays africains à s'adapter au changement climatique. Il fallait tout remettre à plat. D'où ce grand sommet Union européenne-Union africaine. Mais c'était déjà mal parti, estimait juste avant Geert Laporte. Il est directeur d'un réseau de think tank européen.
Du côté africain, il y a cette attitude qui fait qu'après plusieurs sommets, avec de grandes déclarations, de grands mots, avec des présidents qui se sont exprimés sur un tout nouveau partenariat et tout ça, il y a un certain scepticisme. Encore des mots, toujours des
mots, les mêmes mots. Sauf qu'après le sommet, quelque chose s'était passé. Le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, évoque carrément sur Euronews une relation qui entre dans un nouveau paradigme. Pour lui, ce sommet, c'est...
Le point de départ de ce partenariat rénové, repensé, mais bâti sur le respect mutuel, la solidarité et finalement l'écoute mutuelle. Parce que souvent, on ne nous écoutait pas, on nous donnait juste des recettes, des solutions. Je note quand même ce changement de paradigme fondamental dans la relation.
C'est fort. Mais alors pourquoi l'Europe est-elle prête à faire davantage d'efforts? Est-ce parce que ses rivaux lui mettent la pression, comme le sous-entend le journaliste d'Euronews auprès de Charles Michel, pas très content de la formulation?
L'Union européenne propose 150 milliards d'euros à l'Afrique. Est-ce que ce montant est suffisant pour contrer l'influence, disons, de la Chine, de la Russie? Et est-ce la seule réponse possible?
Mais je voudrais peut-être corriger un élément. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. La volonté de l'Union européenne, ce n'est pas de contrer l'influence de quelqu'un, c'est de développer un projet positif, un partenariat positif, intelligent, engagé.
Voilà un bel exemple de langue de bois de la part du président du Conseil européen. Mais bon, voilà, il y a un an, c'était ça, quasiment la lune de miel entre l'Europe et l'Afrique après ce sommet. Puis la Russie a envahi l'Ukraine et l'Europe est retombée dans ses vieilles habitudes, considérer l'Afrique surtout comme une réserve de matières premières. Olaf Scholz s'est par exemple rendu sur le continent en mai dernier, raconte Africa News.
Le chancelier allemand était à Dakar au Sénégal dimanche, première étape de sa mini-tournée africaine. L'approvisionnement de l'Europe en gaz par le continent a aussi été évoqué. Les Occidentaux cherchant notamment des pistes pour réduire leur dépendance au gaz russe.
Mais il n'y a pas que les matières premières. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, était en Algérie il y a quelques jours.
Parmi les autres thèmes, il y a aussi la sécurité et le problème de l'immigration. Il y a ce projet unitaire, le plan Mattei pour l'Afrique, qui, pour résumer en gros, permet le développement des pays nord-africains en échange du gaz.
Oui, tant qu'à faire, les Européens lient les sujets gaz et immigration. Et s'ils se tournent provisoirement vers le continent voisin pour s'alimenter en énergie, ils cherchent une solution à court terme. Mais le but, c'est de réduire la dépendance. Pas d'énormes investissements à prévoir. On a donc l'impression qu'en un an, on a fait trois pas en arrière dans les relations entre les deux continents. En tout cas, que le changement de paradigme annoncé n'a toujours pas eu lieu.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.